essere senti e prima bien parler. Les autres aussi, mais le verset 5e, c'est en effet une réponse au précieux Sauveur. Toi qui adores notre âme, agneau de Dieu, seul digne et d'hommage et d'honneur, qui ici-bas comme au ciel, tous s'unissent et proclament ta force, ton pouvoir, ta suprême grandeur. Est-ce que c'est en effet la réponse de tous nos cœurs pour ce Sauveur, ce Seigneur adorable, dont ses souffrances ont été décrites dans les versets précédents. Je pense que l'Esprit de Dieu nous dirige cet après-midi de contempler le Seigneur Jésus comme l'objet de nos affections. Lisons donc ensemble quelques passages dans le livre de Samuel, le premier. La vie de David nous est décrite dans 40 chapitres, dont 16 dans le premier livre de Samuel et 24 dans le second livre de Samuel. Beaucoup de détails ont été donnés. Il y a certainement un but que l'Esprit Saint nous a donné. Beaucoup de détails sur la vie de David. Déjà pour notre propre cœur, qui d'entre nous peut nier qu'il ne se trouve pas souvent dans des pareilles circonstances, un peu comme David. Et les psaumes qu'il a écrits, quelle consolation pour l'Église de Dieu à travers des siècles. Quelle consolation, quel réconfort pour nos âmes. Quel encouragement encore pour nous aujourd'hui. Donc on pourrait dire que la vie et le caractère de David nous donne une sorte de tableau composé de différentes couleurs. Mais les couleurs dominantes, blanc et noir et d'or. Dans le blanc, nous voyons David comme un exemple pour nous, que nous pouvons imiter et suivre. Dans le noir, nous avons David comme un avertissement. On ne peut pas le suivre. Et dans couleur d'or, nous avons un David type de notre Sauveur, Seigneur adorable, Jésus-Christ. Maintenant, nous aimerions bien contempler David comme type de Christ, comme l'objet de nos affections. Nous pouvons aussi le regarder, par exemple, dans le chapitre 23e, Christ comme le centre de rassemblement parmi ses hommes forts. Notre frère vient de le dire dans sa prière. Jésus-Christ, l'objet de nos affections. Jésus-Christ, centre de rassemblement. Donc, Jésus-Christ, l'objet de notre affection. Dans cette histoire de David, nous voyons que il y avait plusieurs personnes qui se sont attachées à David, qui l'aimaient, pour des raisons et des motifs différents. Il y avait déjà, premièrement, Jonathan, qui s'est attaché à David dans l'heure de sa victoire. Victoire sur Goliath. Il y a des hommes forts qui se sont attachés à David dans l'heure de sa rejet. Il a été rejeté. Il y a Abiathar, qui s'est attaché à David dans l'heure du danger. Lui et David, les deux étaient en danger, persécutés par le roi Saül. Abigaël s'est attaché à David dans l'heure de ses besoins. Elle est venue vers lui avec tous dont il avait donc besoin, avec ses hommes forts aussi. Nous voyons Michal, la fille de Saul, qui s'est attachée à David par un amour tout à fait naturel. Il y a encore le peuple. Le peuple s'est attaché à David aussi parce qu'il les a délivrés de leurs ennemis. Et finalement, il y a Saul. Même le roi s'est attaché à David parce qu'il lui donnait du soulagement dans son oppression de démons. Vous voyez, pour des motifs différents, les gens se sont attachés à David. Maintenant, la question qui se pose, pour quel motif sommes-nous attachés au Seigneur Jésus? Simplement parce qu'il nous a sauvés ou qu'il nous a bénis par le fait qu'il nous a tellement bénis? Ou simplement pour la beauté de sa personne? Pas pour sa bénédiction, pour ses biens, mais pour lui-même, pour lui-même. On peut connaître le Seigneur Jésus, je l'espère. Pour tout le monde ici cet après-midi, on peut le reconnaître, le connaître comme son sauveur personnel. Mais de le reconnaître comme son Seigneur, comme celui à qui on a, par exemple, donné la première place dans sa vie, comme celui qui est l'objet de notre affection. Et contemplons donc en quelques instants ensemble David comme un type de Christ. Je n'ai pas lu le chapitre 17e, ça aurait été trop de temps, mais j'aimerais bien me référer à plusieurs endroits dans le chapitre 17e pour faire ressortir combien David était donc un type merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous avons donc dans le verset 17e du chapitre 17, « Et Esaïe dit à David son fils, « Prends, je te prie, pour tes frères, cet épha de froment rôti et dix pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. » Voilà un père qui envoie son fils vers ses frères. Quel type merveilleux. Le père a envoyé le fils pour être le sauveur du monde. 1 Jean 4. Aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est venu vers les siens, mais ils n'ont pas reçu. Nous avons chanté et aussi rendu grâce cet après-midi. Nous avons pensé à notre Seigneur Jésus-Christ comme celui qui est rejeté, repoussé, refusé, homme de douleur. Avant son service, David, il se trouvait dans le désert. Et c'est très précieux de voir cela plus tard. Il dit, il rend son témoignage devant Saül dans le verset 37e. Et David dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà ici David qui a remporté la victoire sur lion et sur l'ours. Est-ce que nous n'avons pas ici aussi une image, un type du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était dans le désert? Et c'est très frappant dans l'évangile de Marc, seul dans l'évangile de Marc, où nous lisons que le Seigneur était avec les bêtes sauvages dans le désert. Et là, tenté par le diable, il a remporté la victoire sur l'ennemi. Quelle victoire! Et nous célébrons la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Déjà sur la terre, mais bientôt dans la perfection. Donc, aussi, troisièmement, nous voyons que David arrive au camp, le verset 28e. Et Elia, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait ses hommes, et la colère d'Elia s'embrasse contre David. Et il lui dit, « Pourquoi donc es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais moi ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David avait donc trois frères qui étaient tous dans l'armée avec Saül. Et ici, Eliab a parlé mauvais contre David. Il a totalement mal interprété. Il a dit, je connais la méchanceté de ton cœur, mais c'est l'envoyé du Père, ici, qui est venu. Et comme ses trois frères étaient contre lui, nous voyons aussi les trois ennemis du Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, les sadduciens, les hérodiens. Tous se mettaient contre le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mal interprété notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont même accusé, disant que les miracles qu'il faisait Il est fait par la puissance diabolique. Il est donc en liaison avec le diable, blasphème. Non, ce n'était pas ainsi. David avait été envoyé par son père. Verset 25e, et les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme-là qui monte? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Il avéra que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Une récompense pour celui qui va remporter la victoire sur l'ennemi. C'est un très faible type ici, Michal. Et nous avons le grand type, le Seigneur Jésus-Christ. N'a-t-il pas remporté la victoire sur l'ennemi? N'a-t-il pas reçu aussi l'épouse, l'assemblée, l'Église, récompense de tout ce travail sur la croix du Calvaire? Il a acheté pour lui-même. Dans tout cela, nous voyons donc David, type de Jésus-Christ. Il a encore un autre dans le verset 45. Et David dit au Philistin, toi, tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, des troupeaux rangés d'Israël, que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera à ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le nom de son Dieu, et ils l'ont refusé. Il a prophétisé à Israël, disant, vous recevrez quelqu'un qui vient dans son propre nom, c'est l'Antichrist. Il est venu dans le nom de son Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour faire la volonté de son Père, d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quelle obéissance, quelle humilité, que cette humilité de notre Sauveur adorable. Et dans les versets 51 et 52, nous voyons que David a remporté la victoire sur Goliath. Verset 51, et David courut et se tint sur le Philistin, et prit son épée et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Verset 54, et David prit la tête du Philistin et l'apporta à Jérusalem et ses armées. Il le mit dans sa tente. Il a remporté la victoire et une grande proie. Ce que nous dit aussi Éphésiens 4, il a reçu des dons et il les a donnés, des dons à son assemblée. Il a vaincu l'ennemi par ses propres armes, son épée. Avec cette épée de Goliath, il a décapité cet ennemi, totalement détruit. Le Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire, a remporté la victoire sur l'ennemi. C'est un ennemi vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et encore finalement, dans le verset 58, et Saül lui dit, jeune homme, de qui es-tu fils? Et David dit, je suis fils de ton serviteur, le Bethléemite. Il ne le reconnaissait pas, Saül. En Jean 7, verset 27e, mais nous connaissons celui-ci et nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne le sait d'où il est. Jésus donc criait dans le temple, enseignant, disant, « Et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de par moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. » Ils ne l'ont pas reconnu. Merveilleux type du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi donc Jonathan s'est attaché à David? Quel moment donc? Est-ce que c'était vraiment le moment qu'il a remporté la victoire sur David? Je n'en pense pas. Ce qui m'a frappé, c'est ce que nous avons lu dans le chapitre 18e et le verset 1er. Et il arriva comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. On dit, les serviteurs, les pharisiens, quand ils sont rentrés pour espionner, jamais un homme a parlé comme ça. et la parole de grâce qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et en type, nous voyons que voilà le moment. Quand Jonathan a regardé David, comment il se comportait devant son père, comment est-ce qu'il a répondu, les paroles qu'il a parlées. Voilà, à ce moment-là, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et pour nous, chers frères et sœurs, est-ce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont notre méditation chaque jour? Est-ce que nous écoutons souvent sa voix à travers la parole? Contemplons donc cette personne adorable dans notre lecture de chaque jour. C'est Jonathan. Il n'était pas n'importe qui. C'était le prince. Et encore, on pourrait dire, c'était le chéri du peuple qui avait déjà remporté quelques victoires sur l'ennemi. Chapitre 14. Il ne se faisait pas remarquer, ce Jonathan, que par sa confiance totale dans l'Éternel. Son humilité, il était pieux et doux, généreux. Quel caractère doux, quel caractère de Jonathan. Il faut quand même encore réaliser que ce Jonathan avait à peu près 40 ans et ce David avait à peu près 18 ans quand il a remporté les victoires sur Goliath, un vétéran, capitaine de l'armée, sans jalousie, voyant un jeune homme qui remporte la victoire sur un ennemi qui, lui, n'osait pas lutter contre. Pour nous déjà, aussi, un enseignement pratique de ne pas être jaloux ou de ne pas avoir envie de notre enfant de Dieu que le Seigneur emploie dans son service. Il faut de l'humilité pour ça. Il faut vraiment réaliser le renoncement de soi pour aimer une telle personne. Et Jonathan s'est anéanti et il a aimé, il s'est attaché à David. Donc, nous voyons premièrement l'abandon de l'amour. Nous voyons aussi, deuxièmement, l'alliance de l'amour. Et nous voyons aussi, plus tard, dans notre méditation, le sacrifice ou l'offrande de l'amour. Jusqu'à quelle limite est-ce que l'affection pour le Seigneur nous pousse? Nous voyons aussi le témoignage qu'a rendu l'amour. Un cœur plein d'affection pour David. Et finalement, nous voyons aussi la communion de l'amour. Passons donc sur ces quelques points ensemble. L'abandon. Il a aimé comme son âme. Rien de réservé dans le cœur de Jonathan. Rien du tout. Il s'est donné totalement. Et est-ce que c'est pas cela aussi que l'Esprit Saint cherche à produire dans nos cœurs, chers frères et sœurs, qu'on ne retient rien pour le Seigneur. On se donne entièrement. On a réalisé que nous avons été achetés à prix. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous sommes à lui. Rachetés par son sang précieux. Et pour cela, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Cet abandon, est-ce que nous le connaissons dans l'expérience de notre vie? Un abandon total. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, un sacrifice agréable, vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et puis, ce deuxième verset du chapitre 12 de Romains, soyez pas conformés à ce siècle, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu bonne, parfaite et agréable. Voilà, l'esprit nous pousse à un abandon. Présentez vos corps, pas vos esprits, mais vos corps, littéralement, ce corps physique. Mes chers jeunes amis, frères et sœurs, avant le mariage, et après aussi, mais certainement aujourd'hui, pour nos jeunes, pour notre jeunesse, de réaliser que votre corps physique n'est pas à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce corps physique présenté à Dieu pour être préservé de ce monde dans cette corruption, cette immoralité? L'apôtre Paul parle souvent de ce corps physique. En 1 Corinthiens 6, par exemple, il nous montre depuis le verset 12, ce que Dieu pense de notre cœur. Et Christ est pour notre cœur, et nos cœurs sont des temples de l'Esprit Saint, et nous sommes des membres du corps de Christ. Nos cœurs sont donc à préserver dans la sanctification, dans la pureté. C'est un avertissement pour nous tous. Comment est-ce qu'on peut être gardé du courant dans ce monde, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il y a aussi l'alliance de l'amour. Plusieurs fois, nous voyons que David et Jonathan font des alliances. Chapitre 20, verset 16, que nous venons de lire. Et Jonathan fit alliance avec la maison de David. Et chapitre 23, verset 18. Et ils firent les deux alliances devant l'Éternel. Quand deux jeunes personnes sont amoureux, ils achètent des alliances pour manifester qu'ils se sont promis l'un l'autre, qu'ils savent qu'ils sont l'un pour l'autre. Le Seigneur les a donnés l'un pour l'autre. Et c'est aussi promesse pour le mariage qui va bientôt s'achever. L'alliance, vous savez que l'Esprit Saint nous a présenté aussi dans l'Épître aux Éphésiens comme Arbun, ça veut dire aussi une sorte d'alliance. Une garantie déjà de ce que nous aurons comme des richesses en perfection quand nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Principe, c'est notre alliance qui nous lie, qui nous aide déjà à réaliser un peu qu'est-ce que c'est que le ciel sur la terre. Et alors, ceux qui s'aiment et se soumettent aussi l'un à l'autre, nous voyons cette soumission de Jonathan. Et l'amour s'identifie aussi avec l'intérêt de l'autre. Ils marchent ensemble. Est-ce que deux qui marchent ensemble, ils ne sont pas d'accord? Il y a donc une entière harmonie, unité, deux personnes qui s'aiment les uns les autres. Et ça doit être aussi le cas pour chacun, chacune de nous, chers frères et sœurs, dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Et ils ont donc plusieurs fois renouvelé leur lien. Peut-être aussi, quand nous nous rassemblons autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ, le jour du Seigneur, autour de sa table, est-ce que nous n'avons pas non plus là une autre occasion de renouveler notre affection pour lui et de l'exprimer dans les louanges? Quel bonheur! Le Seigneur sait très bien que nous oublions si souvent et si vite. Peut-être c'est pour cela qu'il nous donne souvent de nous souvenir de lui. Mais pas seulement le jour du Seigneur. Il me semble que c'est un très bon exercice spirituel que de chaque jour, chaque matin, quand on se lève, de se mettre à genoux et de renouveler cette alliance, cette affection, de l'exprimer que nous aimons ce Seigneur Jésus et de marcher tout près de lui. Il y a donc, troisièmement, l'offrande de l'amour et de l'affection. Qu'est-ce qu'il a donc donné ce Jonathan à David, chapitre 18? Il lui donna sa robe, la robe d'un prince. C'est par cette robe qui était donc distinguée parmi tous les autres. Et il se dépouillait devant David. Jonathan ne se voit rien du tout. Ah, souvent nous pensons d'être quelqu'un. Nous avons notre propre pensée, notre propre opinion, notre propre importance, notre propre position. Et il faut en tout cas défendre cela. C'est la chair. Mais d'accepter le dépouillement de nous-mêmes, comme le manifeste aussi un Jonathan, quel bonheur. Se dépouiller de ce vieil homme et de se revêtir du nouvel homme. Et à donner aussi son épée, signe de sa victoire sur l'ennemi. Mais il reconnaît devant David qu'il est sans puissance. Il ne peut rien faire. Il lui donne son épée. Non, c'est David qui va maintenant être le premier. Et c'est très touchant quand nous lisons que dans le chapitre 23, Jonathan dit, « Toi, tu seras le roi, tu régneras, et moi je suis le second. » C'est comme un Jean baptiseur, n'est-ce pas? Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Voilà l'esprit de Jonathan. Il lui a donné aussi son arc et sa ceinture, des signes de sa puissance, de sa dignité, de sa personnalité, de son autorité. Non, devant David, il se réduit. Et encore, un verset touchant dans le chapitre 21, verset 4, il dit, « Ce que ton âme dit, je le ferai pour toi. » Ce que ton âme dit, il faut simplement le dire. Et nous avons beaucoup des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et surtout dans les chapitres 13 à 16 dans l'Évangile de Jean, où le Seigneur parle à ses disciples. Et combien de choses il a dit. Et est-ce que nous sommes aussi prêts à dire à notre Seigneur Jésus-Christ ce que ton âme dit, je le ferai pour toi. Il faut la soumission totale. Quatrièmement, il y a le témoignage de l'amour. Saül, plein de haine et d'hostilité contre David, le persécute. Mais Jonathan, le fils de Saül, s'est attaché et il est prêt à défendre David. Chapitre 19, verset 4, et Jonathan parla en bien de David à Saül, son père. Est-ce que nous sommes prêts aussi à ainsi prendre position dans ce monde plein d'hostilité contre le Seigneur Jésus-Christ, de rendre notre témoignage sans crainte, sans peur, et risquer sa vie pour David. Plus tard, nous voyons que même Saül a jeté ce javelot à son propre fils. Alors donc, Jonathan était prêt à donner sa vie pour David, pour la défense de David. Et à travers l'histoire de l'Église, nous avons vu des martyrs qui ont été prêts à laisser leur vie pour le témoignage du Seigneur Jésus. Quel amour! Et finalement, la communion de l'amour. Cette communion a donc commencé dans le chapitre 18e que nous venons de dire déjà, quand David a parlé à Saül. Et Jonathan se lia à l'âme de David. C'était donc dans les circonstances confortables, paisibles, dans le palais. Dans un sens, c'est facile d'être un chrétien parmi d'autres chrétiens, dans les circonstances confortables, dans l'assemblée, avec ses amis, les jeunes, etc. Mais une fois, quand on est loin, rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, dans une autre ville, loin de ses parents, de l'université peut-être, il n'y a pas d'assemblée. Restez fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Dans la communion, il y a d'autres circonstances qui sont plus difficiles. Et nous voyons cela dans le chapitre 21 encore, le verset 11, où dans le bois, il se trouve, Jonathan dit à David, viens et sortons au champ, et ils sortirent les deux au champ. Maintenant, déjà, l'hostilité de Saül s'est manifestée et David ne peut pas rester dans le palais. Et Jonathan est donc obligé d'aller le chercher dans les champs. Mais il est quand même disponible. C'est l'amour pour David qui le pousse à sortir du palais. Et plus tard encore, dans le bois, chapitre 23e, il le trouve dans le bois pour encourager David. Quel bonheur que d'avoir la communion ainsi avec le Seigneur, pour pouvoir aussi encourager nos frères et sœurs par la consolation, par l'encouragement que nous avons reçu dans notre communion personnelle avec le Seigneur Jésus. S'encourager les uns les autres, c'était précieux pour David que Jonathan est venu pour l'encourager. Mais nous ne trouvons pas Jonathan avec David dans la caverne d'Adullam. Et ce verset 18e du chapitre 23e, pour moi, c'est profondément saisissant. Parce que là, nous lisons, David demeura dans le bois et Jonathan s'en alla à sa maison. Est-ce que nous allons juger Jonathan? N'oublions pas, quand on juge quelqu'un, il y a un doigt qui est vers celui que je critique. mais il y en a trois qui sont dirigés vers moi. C'est tellement facile de juger l'autre, mais trois fois plus de défauts se trouvent en moi-même. Non loin de cela. On ne juge pas, mais Jonathan me sait quand même un enseignement pour nous. Il tombe mort parmi les Philistins. C'est Jonathan. Quelle occasion pour nous aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, de nous attacher à Jésus-Christ, notre Sauveur adorable, dans le jour qu'il est encore rejeté par le monde. De rester attaché, coûte qui coûte, à travers toutes les circonstances, de ne pas se retirer dans sa maison confortablement ou dans le palais, mais d'être avec lui, là où il nous dirige. Dans l'opprobre, je l'accepte. Dans les souffrances, il est avec nous. Qu'il soit donc, avec l'aide de l'Esprit Saint, toujours l'objet de nos affections.
Au chef de musique, psaume de David, que l'Éternel te réponde au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie ton secours et que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte ton holocauste. C'est là qu'il te donne selon ton cœur et qu'il accomplisse tous tes conseils. Nous triompherons dans ton salut et nous élèverons nos bannières en ton nom, au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse toutes tes demandes. Maintenant je sais que l'Éternel sauve son oint et il lui répondra des cieux de sa sainteté par des actes puissants de salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de leurs chars et ceux-là de leurs chevaux. Mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu, ceux-là se courent et tombent, mais nous, nous nous relèverons et nous tenons debout. Éternel, sauve, que le roi nous réponde au jour où nous crions. Psaume 21, au chef de musique, psaume de David. Éternel, le roi se réjouira en ta force, et combien s'éliera-t-il en ton salut. Tu lui as donné le désir de son cœur, et tu ne lui as pas refusé la requête de ses lèvres, Séra. Car tu l'as prévenu par des bénédictions excellentes, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Il t'a demandé la vie, tu la lui as donnée, une longueur de jour pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande dans ta délivrance. Tu l'as revêtu de majesté et de magnificence. Car tu l'as mis pour bénédiction à toujours, tu l'as rempli de joie par ta face. Car le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Qu'est-ce qui parle dans le psaume 20 ? C'est le vainqueur de Goliath. Mais, par l'Esprit Saint, il entrevoit une victoire, un combat beaucoup plus considérable que celui qu'il a livré contre Goliath. Il entrevoit ce combat entre le Seigneur Jésus et Satan. Et nous voyons les vœux que David, par l'esprit prophétique, formule pour le grand vainqueur, le Seigneur Jésus. Il exprime 9 vœux. Dans nos méditations individuelles, nous pouvons considérer ces vœux qui sont présentés. Il entrevoit ce combat. Il y a eu plusieurs combats menés par le Seigneur contre Satan. Il y a eu celui au désert, au début de son ministère. Il y a eu le combat à Gethsémané. Et puis, il y a eu ce combat à la croix, où le Seigneur semblait complètement passif, mais de fait, c'est par la mort qu'il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. et le Seigneur Jésus a obtenu la victoire, une victoire parfaite et définitive. Il a produit les principautés et les autorités en public, triomphant d'elles en la croix. Les témoins ont cru que lui était vaincu, et pas du tout, c'est lui qui était le vainqueur. Eh bien, dans le psaume suivant, le psaume 21, il se place moralement après la croix, comme le psaume 20 se place avant la croix, et nous voyons quelles sont les bénédictions qui découlent de la victoire du Seigneur Jésus sur cet adversaire. Et nous voyons le Seigneur ainsi couronné de gloire et d'honneur. Il est victorieux. Il a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Le Père lui a donné cette couronne d'orphin, et c'est là où nous le contemplons. Mais nous voyons aussi que les croyants sont associés à la victoire du Seigneur Jésus. Nous triomphons par la victoire. Combien c'est précieux de considérer le Seigneur Jésus, le grand vainqueur, maintenant couronné de gloire et d'honneur, et nos cœurs se réjouissent de le contempler ainsi par la foi. Eh bien, nous sommes nous aussi appelés à remporter des victoires sur l'adversaire. Mais nous aimons à le rappeler. Comment David a-t-il eu la victoire sur Goliath? Sans doute il y a eu une pierre de fronde qui nous parle de la parole de Dieu, mais il y a eu cette épée, l'épée de Goliath a servi à le décapiter. Et lorsque David, fuyant, était parti sans prendre son épée, il voit le sacrificateur et lui demande une arme. Le sacrificateur lui dit, il y a ici l'épée de Goliath, il n'y a pas de mieux. Eh bien oui, si c'est par la mort que le Seigneur Jésus a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, nous aussi, lorsque nous réalisons que nous sommes morts avec Christ, que nous nous appliquons à nous-mêmes cette mort, c'est alors que nous pouvons nous aussi obtenir la victoire sur cet ennemi qui était toujours invincible. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui l'a vaincu. Eh bien, que ce soit aussi notre part, portant toujours, partout, dans le corps, la mort de Jésus, puissions-nous ainsi, nous aussi, manifester la vie de Jésus et remporter la victoire sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.